Aujourd'hui, nous continuons notre lecture des béatitudes que j'avais commencé donc le 2 février. Et le 2 février, nous avions à peine effleuré la deuxième partie de ce texte si bien connu. Et donc, on va... Oui, si vous pouvez l'afficher. On va lire donc la deuxième partie des béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et je vous montre encore une fois, sur la diapo suivante, oui, merci, je vous montre encore une fois la division du texte des Béatitudes en deux colonnes, que je vous avais montré aussi le 2 février, où vous voyez un peu donc la structure de ce texte. Et je dois cette idée de cette structure et quelques autres réflexions à Héberou, qui a écrit un très bon livre sur l'évangile de Matthieu, dans lequel j'ai puisé pour ce message. Et pour aujourd'hui, je voudrais vraiment focaliser principalement sur le verset 7, mais on va quand même toucher un peu au verset suivant aussi. On pourrait dire que la première partie qu'on a vue donc il y a deux semaines concerne plutôt notre rapport avec Dieu, et que le deuxième verset s'adresse plutôt au rapport entre humains. Ou que d'un côté, on voit plutôt des besoins, et de l'autre côté, plutôt des attitudes. Mais d'emblée, soyons très clairs sur ce que les béatitudes ne sont pas. Et je sais, je vous l'ai dit le 2 février, mais il est quand même nécessaire de le souligner encore une fois, nous n'avons pas affaire à une liste de vertus qu'il faudrait s'efforcer à atteindre, bien que cela semble impossible pour la plupart des gens. Ce n'est pas un idéal sublime auquel on essaie d'aspirer, et si l'on y arrive ensuite, Dieu nous récompensera à cause de notre mérite. Non. Si nous lisons les béatitudes de cette manière, nous sommes vraiment à côté de la plaque. Alors, pour bien comprendre les béatitudes, il convient de retenir deux clés essentielles. La première, c'est qu'elles ne peuvent pas être séparées de la personne de Jésus-Christ. Et, oui, diapo, s'il vous plaît. Et la deuxième, c'est qu'elles sont des promesses, des bénédictions que Jésus nous donne, qui ont un accomplissement à la fois présent et futur, tout comme le royaume de Dieu est déjà ici, et en même temps encore à venir. Alors, si je vous donne ces deux clés, quelles sont alors les implications de ces deux clés? Ce n'est qu'en tant que disciples du Christ que nous pouvons voir dans ces énoncés la vie humaine du Messie, de Jésus même, qui, dans son abaissement, est venu vivre parmi nous comme pauvre, comme affligé, comme quelqu'un plein de douceur, mais aussi comme quelqu'un affamé de justice. Et c'est de cette manière que nous pouvons comprendre que ces promesses ont un sens pour notre vie chrétienne, afin que, en lui, la première clé, on ne peut pas séparer les béatitudes du Christ même, afin que, en lui, par notre identification avec lui, nous devenions ceux et celles qui vivent de cette attente du royaume de Dieu. Et cela veut dire aussi que les consolations et les bénédictions que Jésus nous donne peuvent être reçues déjà ici et maintenant, mais que leur plénitude ne fera notre bonheur qu'au moment où le royaume de Dieu viendra dans toute sa splendeur, c'est-à-dire quand Jésus va revenir dans sa gloire et quand son règne sera définitivement établi. Et c'est bien pour cette raison-là que nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que faire alors de cette deuxième partie des béatitudes, à la lumière des deux clés que je vous ai données? Être miséricordieux, avoir le cœur pur, construire la paix et même souffrir pour la justice ne sont donc pas des vertus à cultiver pour obtenir la récompense de Dieu. Car qui peut dire qu'il est vraiment à tout moment plein de miséricorde ou qu'il a vraiment le cœur pur? Soyons clairs, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains avec nos fautes, avec nos faiblesses, nos incohérences et nos contradictions. Le seul, vraiment le seul dont on pourrait dire qu'il est absolument plein de miséricorde et qu'il a le cœur pur, c'est qui? C'est Jésus, le Messie. C'est lui qui est venu pour exercer la miséricorde de Dieu. C'est lui qui est la vérité et qui projette dans notre cœur impur la pureté de sa lumière. Or, si Jésus est venu nous sauver, qu'il est venu vivre en nous par son Esprit Saint, cela veut dire qu'il devient possible que nous, malgré nos faiblesses, malgré notre égoïsme, que nous devenons capables d'accomplir des œuvres de miséricorde, mais uniquement parce que Jésus, œuvrant en nous par son esprit, parce qu'il nous rend capables à les faire. Et sa promesse est bien qu'au dernier jugement, nous recevrons pleinement sa miséricorde et de manière certaine, nous entendrons qu'il nous dise, et on va les projeter, ces paroles qu'on trouve dans Matthieu 25, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Notez qu'à chaque fois, il s'agit bien d'activités très spécifiques. Alors, c'est vrai que de nature, nous ne sommes pas toujours miséricordieux, mais nous pouvons le devenir par notre union avec le Christ qui est en nous. Et si nous laissons le Christ nous parler et nous façonner, nous pouvons faire ce que l'homme normalement ne fait pas. La semaine dernière, j'ai regardé sur l'internet un documentaire qui raconte et qui montre l'expérience d'un cinéaste écossais qui s'appelle James English. Alors, vous allez voir sa photo. Alors, malgré son nom très English, anglais, il est écossais. Et si vous avez visité l'Écosse, vous savez que c'est dangereux de dire à un Écossais que tu es anglais ou es-tu anglais. Les Écossais sont très fiers de leur nationalité, donc, mais il se fait qu'il a ce nom très anglais, bien qu'il est écossais. Bon, c'est un cinéaste, c'est une personnalité très médiatique aussi. Il fait des programmes à la télé. Et qu'est-ce qu'il a fait, James English? Ben, en Noël 2017, il a vécu une semaine entière dans les rues de Glasgow, en Écosse, comme un clochard, comme un SDF, sans domicile fixe. Et c'était juste avant et pendant Noël 2017. Et il l'a fait avec quelqu'un, donc un caméraman qui venait le voir, qui le filmait, pas 24 heures sur 24, mais donc à certains moments. Lui aussi avait une petite caméra pour enregistrer certains de ses contacts avec les autres SDF qu'il trouvait dans la rue. Et le documentaire s'appelle, diapo suivante, Homeless at Christmas, donc sans domicile fixe à Noël, si on traduit en français. Il n'avait aucun besoin de faire ça, mais il a voulu vivre lui-même, et par cela comprendre, et mieux comprendre, ce que les SDF vivent au quotidien. Et donc, en faire un film qui, on espère, enfin il l'espère, aiderait à motiver les gens à être miséricordieux pour ces personnes en marge de la société. Et en passant des journées et des nuits entières, souvent des nuits blanches, parce que une des points vraiment saillants qui sortent de ce film, c'est que c'est très difficile de dormir dans la rue. Non pas seulement il fait froid, mais il y a du bruit, ils sont bousculés, il y a des gens qui prennent même plaisir à insulter ces SDF. C'est incroyable. Et donc, en passant des journées, des nuits entières avec ces pauvres, il a compris qu'il est beaucoup trop simpliste de dire à ces gens, « Ben, va te chercher un boulot, gagne ta vie comme tous les autres, au lieu de quémander sur le trottoir. » Et sa vie a été changée par cette expérience. La plupart des SDF ont réellement besoin d'aide, car sans la miséricorde de certains, ils ne sont pas capables eux-mêmes de sortir de leur situation pénible. Il y a énormément d'abus d'alcool, de drogue parmi eux, et sans aide, ils ne peuvent pas en sortir. Ce qui était autant plus remarquable à ce film, c'est que James English, donc l'homme qui a fait cette expérience et qui a produit le film, c'est que James English n'est pas chrétien. Mais à plusieurs reprises, il rencontre des chrétiens qui s'engagent justement à aider les SDF en apportant de la nourriture, des couvertures, etc. Il fait leur connaissance et il enregistre même dans son programme le témoignage d'un couple qui avait vécu dans la rue, qui a trouvé le Seigneur, et il raconte comment le Seigneur a transformé leur vie, et ce couple est maintenant à l'œuvre, donc justement à aider les SDF. Et oui, c'est dire qu'il faut parfois un traitement de choc, parce que ce programme, ce documentaire est vraiment choquant. Il faut parfois un peu un traitement de choc pour que nous puissions voir la pénurie des autres. Parfois, on ne le voit même plus. Cela dit, devenir miséricordieux rencontre aussi parfois des obstacles inattendus. Alors la photo suivante, ah oui, le voilà dans la rue, hein, James English, mais la photo suivante, c'est Bob Riley, c'est un Américain qui fut élu gouverneur de l'État d'Alabama en 2002. Et au début de son mandat, il découvrit que le code fiscal de l'État d'Alabama n'avait pas été modifié depuis 1901. Alors c'était 2002, donc tout un siècle hein, que ça n'avait pas été changé. Et il découvrit que pour les impôts directs, les Alabamiens, les plus riches, ne payaient que 3% de leurs revenus. En revanche, les plus pauvres payaient jusqu'à 12% de leurs maigres revenus en impôts. Et il y avait un nombre d'autres injustices dans ce code par rapport aux impôts fonciers qui n'avaient jamais été corrigés. Il formula donc une réforme majeure du code fiscal de l'État de l'Alabama, et cela voulait dire, évidemment, une hausse des impôts pour les riches, une mesure que, bien sûr, jamais populaire. Mais il justifia son projet de loi disant qu'il fallait sortir l'État d'Alabama de la crise fiscale qui était réelle, et aussi qu'il fallait absolument trouver de l'argent pour améliorer la qualité de l'enseignement public dans son État, car depuis toujours, l'enseignement dans cet État avait été regardé, il avait la réputation comme un des pires systèmes scolaires au sein des États-Unis. Alors, son projet de loi, d'abord, fut applaudi. Mais après quelques semaines, l'opposition commença à monter et finalement un groupe de pression qui s'appelle la coalition chrétienne d'Alabama s'y opposa de manière très déterminée. Et le chef de cette coalition chrétienne disait « Oh, vous trouverez que la plupart des Alabamiens ont le cœur bien disposé à la charité » mais ils ne veulent pas que cela sorte de leur poche. Et cela provoque bien sûr la réplique, c'est quel genre de charité ça qui n'est pas prête à ouvrir son porte-monnaie ? Toujours est-il que le projet de loi du gouverneur Riley fut rejeté, ce qui provoqua le gouverneur à dire « J'en ai marre que l'Alabama soit le premier dans les choses mauvaises et le dernier dans les choses bonnes. » Face à l'inégalité et l'injustice, il n'est pas toujours facile d'être miséricordieux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pendant notre long séjour en Asie, j'ai eu la chance de visiter les grandes métropoles de l'Asie du Sud-Est, Manille, Jakarta, Bangkok, chacune de ces villes comptant entre 15 et 20 millions d'habitants. Et un peu partout dans les rues de ces villes énormes, cette photo-là a été prise à Bangkok, un peu partout dans les rues de ces villes énormes, on rencontre des mendiants. Alors, faut-il donner quelque chose à chacun ? C'est presque impossible. On fait ce qu'on peut, mais ce n'est jamais assez. Et très vite, tu trouves, je n'ai plus rien dans mes poches, quoi. J'ai donné tout. Et quand même, on rencontre de plus en plus des gens qui étendent la main pour une aumône. Bien sûr, on peut aussi dire que la miséricorde n'est pas toujours liée à l'argent. Et cela est absolument vrai. En même temps, face à l'énormité de l'injustice, ce que nous pouvons faire ne paraît que comme une goutte dans un océan. Faut-il pour cela se résigner à ne rien faire ? Non. Mais c'est à des moments pareils que la prière du Seigneur devient de plus en plus pertinente. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors faisons ce que nous pouvons faire maintenant, sachant que ce ne sera jamais suffisant, mais ayons aussi cette certitude que le règne du Christ viendra, et car il nous l'a promis, il nous l'a annoncé, et agissons partant de cette perspective du royaume de Dieu. Je reviens au texte, et je vous montre le fait qu'on a beaucoup de versions différentes de ce verset 7. traduction œcuménique dit « Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde », tradition assez classique. Version Semeur dit « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux ». La Bible en français courant, « Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux ». Et une traduction qui n'est pas très bien connue, mais qui est assez bonne aussi, « Bienheureux ceux qui auront pitié, parce que ce sont eux qui seront pris en pitié ». Or, peut-être la traduction la plus éloquente est de simplement regarder la vie de Jésus lui-même. Et là, je vous donne un texte, diapo suivante, merci. Ça vient du chapitre 9 du même évangile selon Matthieu, où Matthieu donne comme un genre de résumé de ce que Jésus faisait en Galilée. Disant, Jésus parcourait villes et villages, il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Et alors, notez ce verset 36. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. » Le verset qui me frappe dans ce passage, c'est vraiment ce verset 36, « Son cœur fut rempli de pitié ». Et en grec, c'est un verbe très, très fort. Là, je vous ai donné la version, la Bible en français courant. Alors, récemment, elle a été revisée, cette traduction, et maintenant, elle a été publiée comme la nouvelle Bible en français courant. Et là, ils ont changé la traduction de ce verset 36. Ils traduisent tout simplement « Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait. » Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait. Puissions-nous aussi voir comme Jésus voyait et qu'il nous accorde d'être bouleversés par sa compassion. Amen. Prenons quelques moments de recueillement avant de célébrer ensemble la Sainte Cène. Frères et sœurs en Christ, Jésus est vivant. Il est ici parmi nous. Et si vous voulez le suivre comme votre Seigneur, il vous invite à sa table. Dans ces éléments si simples du pain et de la coupe, il veut se donner à nous, nous rencontrer, nous purifier et nous fortifier dans notre foi. Et en venant auprès de lui, nous prions. Jésus, notre Seigneur, tu nous as appelés à te suivre et à observer tout ce que tu nous as prescrit. Et nous confessons, Seigneur, que trop souvent, nous ne t'avons pas vraiment suivi et que nous nous sommes égarés, que nous avons contristé ton Saint-Esprit par nos actes, nos pensées, par nos omissions. Dans ta grande bonté, Seigneur, pardonne-nous nos fautes et délivre-nous des péchés qui nous tiennent captifs. Crée en nous un cœur pur, mets en nous un esprit nouveau, que nous puissions marcher dans la joie du salut devant ta face. Prenons un moment de prière en silence et puis prions ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons alors la bonne nouvelle de son pardon. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Si quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau, et ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Amen. J'invite Willy et Christiane à venir maintenant pour assister. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Willy, veux-tu rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait pour nous?
Oui, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, tu sondes le cœur de tout homme, tu connais les désirs de chacun de nous, et rien ne te reste caché. Envoie, s'il te plaît, ton Esprit Saint pour qu'il purifie nos pensées. Nous pourrons ainsi t'aimer de tout notre être et célébrer dignement ton saint nom et cette sainte scène par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Envoie, Seigneur, nous t'en prions, ton saint et vivifiant Esprit sur nous. Que ce pain soit pour nous tous le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette coupe soit pour nous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'elle soit pour nous le gage de notre appartenance au royaume de Dieu. Qu'ainsi nous tous qui participons à cette même nourriture et à ce même breuvage, que nous soyons unis les uns aux autres, dans l'amour, délivrés de nos péchés, fortifiés dans la foi et rempli de la grâce de tes bénédictions. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, le sang de la nouvelle alliance versé pour nous et pour la multitude. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Heureux, bienheureux, ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, venez. Car tout est prêt. Je vous invite à vous lever et on va distribuer le pain d'abord, suivi par les gobelets et ensuite la coupe commune pour ceux qui la préfèrent. Et pendant la distribution, restons dans cette attitude d'adoration et Jean-Luc va nous jouer quelque chose après.
Et quand vous passez le pain ou la coupe à votre voisin, sentez-vous libre de dire tout simplement la communion au corps du Christ donné pour toi, la communion au sang du Christ versé pour toi.
Prions le Seigneur. Père plein de générosité, tu nous as nourris à ta table céleste et tu nous envoies dans un monde qui a tellement besoin d'entendre et de recevoir la bonne nouvelle du Christ. Allume en nous le feu de ton esprit, le feu qui ne s'éteint jamais, afin que quand Christ le Seigneur viendra de nouveau, nous puissions resplendir comme le soleil dans le royaume de Dieu notre Père. Remplis-nous dès aujourd'hui de ton Saint-Esprit, afin d'être sel et lumière dans ce monde, afin de devenir des instruments dans ta main, pleins de miséricorde pour ceux qui sont dans les ténèbres. À toi, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, soit gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à recevoir la... Ah non, ok, les enfants, je vous invite à venir et ils nous ont préparé quelque chose, donc... Encourageons-les, écoutons-les.
Les enfants avaient envie de vous partager le chant. Et quand les enfants ont envie de partager un chant, on dit oui. Donc, c'est bon, Isaac.
Moi je veux le suivre pour lui ressembler, parce que je l'admire, je veux le montrer. Moi je veux le suivre pour lui ressembler, je veux le servir et vraiment l'aimer. Je viens lire son livre, je viens lui parler, pour mieux le connaître et le rencontrer. Je viens lire la Bible, je viens lui parler, simplement pour être à ses côtés. Moi je veux le suivre pour lui ressembler, parce que je l'admire, je veux le montrer. Moi je veux le suivre pour lui ressembler, je veux le servir et vraiment l'aimer.
Merci beaucoup. Merci, c'était super, les enfants. Et gloire à Dieu pour ce qu'il fait parmi nous et parmi nos enfants. Alors, je vous invite à vous lever, à recevoir la bénédiction du Seigneur. Et après, on chante « Rien n'est impossible à mon Dieu ». Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit sur vous aujourd'hui et à jamais. Amen.
Rien n'est impossible à mon Dieu. possible, mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible, mon Dieu.
Bon dimanche.